déjà un premier petit avertissement, comme l'a d'ailleurs indiqué Olivier Frangeau. En fait, au départ, je ne suis pas du tout spécialiste de Hella. Et je ne suis d'ailleurs ni juriste ni philosophe du droit, donc je précise. Donc je me suis intéressée à Hella il y a déjà un certain temps, donc par le biais effectivement de Gustave Rapour, qui connaissait très bien, et d'une réflexion plus générale sur les juristes de gauche sous Weimar. Donc j'ai essayé de tirer parti de ce regard peut-être initialement décentré sur Hella pour tenter d'apporter un éclairage un peu différent dans le cadre de ce colloque. C'est difficile parce que je parle en quatrième, donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Ça va me permettre peut-être de passer un peu plus vite sur certains points d'ailleurs. Je vais essayer ici d'aborder Hella en tant que juriste social-démocrate, dont on peut lire certains textes, comme le témoignage de l'élaboration d'une pensée juridique socialiste, donc qui était déjà en germe depuis la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, donc chez d'autres juristes comme Anton Menger, l'Autrichien, ou Karl Renner, aussi autrichien d'ailleurs, mais qui se cristallise et s'affirme sous Weimar, donc dans le cadre du nouvel ordre constitutionnel, et aussi porté par une, voire deux nouvelles générations de juristes, parce que Norman et Cash Reimer sont plus jeunes, alors il est un peu entre les deux, en quelque sorte. Le Sozialer Rechtsstaat, l'état de droit social, mais aussi une formule antérieure dans les textes de Heller, la démocratie sociale, soziale démocratie, peuvent ainsi être vus comme des traductions, des manifestations conceptuelles, alors sous une forme bien sûr spécifique, de cette nouvelle culture juridique qui essaie de penser la transformation sociale par le droit. À côté d'autres, on a parlé de la démocratie collective de Frankl, on a parlé de Zinsheimer, etc. Donc ces conceptions présentent l'intérêt et le point commun d'adopter une approche critique du système juridique libéral, enfin qualifié de libéral, héritier du XIXe siècle, tout en procédant à une revalorisation du droit au sein de la social-démocratie, ce qui passait, ça a déjà été dit aussi ce matin, par une prise de distance par rapport au marxisme. Donc ces réflexions, cela vaut pour Hella comme pour d'autres, ne peuvent bien évidemment être déconnectées ou analysées indépendamment du contexte weimarien. D'une part, la combinaison des mutations socio-économiques et de la crise intellectuelle, qui était déjà bien entamée avant la Première Guerre mondiale, et donc des bouleversements politiques de 1918-19, créent donc un terreau favorable à l'élaboration de nouveaux concepts juridiques. Et d'autre part, ces réflexions, et a fortiori dès qu'il est question d'état de droit et de démocratie, se retrouvent inévitablement investies d'enjeux politiques. Et donc le concept de Sozialer Rechtsstaat, sur lequel je reviendrai, est aussi un concept polémique, ou ce qu'on pourrait appeler en allemand un Kampfbegriff, face à la tentation de la bourgeoisie d'abandonner l'état de droit pour le fascisme. Donc je vais m'appuyer sur des textes qui ont des caractéristiques aussi assez révélatrices. Donc on a des textes comme le fameux Rechtsstaat oder Diktatur, qui pour la première version date de 1929, donc qui sont aussi donc à lire comme une prise de position dans un débat politique. Et puis on a d'autre part beaucoup de réflexions relevant de l'histoire des idées, c'est un peu aussi l'originalité de Heller par rapport à d'autres. Donc je vais notamment beaucoup citer le texte Die politischen Ideen Kreise der Gegenwart, donc les idées politiques du temps présent, si on veut le traduire, de 1926. Il y a aussi un texte de 1924 qui est intéressant, Grundrechte und Grundpflichten, qui accorde une part assez large à l'histoire en fait, des Grundrechte et donc des différentes idées qui sont à la base de ces Grundrechte. Donc c'est une histoire des idées qui a une forte dimension critique et politique, hein, dans lequel il est beaucoup aussi question du présent, hein, bien aussi. Donc je vais exposer, je vais procéder en trois temps, hein, c'est pas que les juristes qui font ça. Donc comment Hella décrit et critique la conception libérale du droit. Là, je vais pouvoir passer assez vite parce que vous avez déjà dit beaucoup de choses tout à l'heure. Puis donc la nouvelle conception du droit qui lui oppose, donc en montrant en quoi son discours s'inscrit aussi dans un courant plus large au sein de la social-démocratie. Et je terminerai par ce qui me semble être un aspect intéressant aussi en raison de l'enjeu politique qu'il porte. C'est donc le fait que Hella, malgré donc, sa critique, ne va pas justement simplement abandonner l'état de droit libéral, mais préserve l'essentiel dans ce qu'il appelle le Sozialer Rechtsstaat. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, la conception du droit dominante jusqu'à Weimar, pour Hella, il n'est pas le seul bien sûr à le dire, c'est une conception libérale, Voilà, qu'il reconstruit de façon idéale, typique, justement, dans son texte de 1926, hein, donc dans ce qu'il appelle l'idée libérale, c'est difficile de traduire Ideenkreis, qui est en fait un cercle d'idées, voilà, un ensemble d'idées. Donc, une des caractéristiques, c'est une vision foncièrement individualiste. Hein, on a des individus qui sont, je cite, des atomes raisonnables, libres et égaux, qui planent, au-dessus de la réalité sociale. Donc c'est cette conception qui domine dans la Déclaration des droits de l'homme, hein, pour Heller de 1789. Les représentants emblématiques dans la pensée allemande, ils citent Kant, et ils citent bien sûr Humboldt, hein, qui cite plusieurs fois comme celui qui a défini le libéral Reichsstaat avec sa formule de Gewissheit der gesetzmäßigen Freiheit, donc l'assurance de la liberté selon la loi, conformément à la loi. Il parle aussi de libéral Reichsstaat ou de reiner Reichsstaat, donc l'état de droit sous une forme pure, l'état de droit au sens strict du terme. Donc l'émergence de cet état de droit libéral est bien sûr indissociable de l'ascension de la bourgeoisie et de ses aspirations à l'autonomie. Donc il y a corrélation entre liberté juridique, liberté économique. Donc comme en témoigne, ça a déjà été dit aussi ce matin, les piliers de l'état de droit libéral que sont la liberté contractuelle, la propriété privée, aussi le droit le Erbrecht, hein, le droit des successions. Donc autant de choses que l'on retrouvait dans le Bürgerliches Gesetz pour donc le code civil allemand qui n'avait été achevé que très tardivement en 1900. Donc notons ici que l'analyse de Heller n'a rien d'original, on la retrouve déjà bien avant Weimar chez quelqu'un comme Otto von Guericke, par exemple, et aussi chez ses contemporains. Donc de même, il y a un terme qu'il utilise pour qualifier cette conception individualiste, c'est le terme de atomistisch, donc individualistisch, atomistisch. C'est un terme qui était très récurrent à l'époque, un terme qui était une nuance péjorative, et qu'on retrouve aussi chez des juristes alors, de l'autre bord, si je puis dire, comme Trippel ou Leibholz, ou même encore Binder, Julius Binder, philosophe du droit néo-hegélien. Donc Heller note d'ailleurs aussi lui-même que la conception de l'état corporatiste du fascisme partage avec l'idée socialiste le rejet en fait, de cette conception du citoyen comme atome isolé abstrait. Donc ça fait partie de cette critique de l'individualisme libéral, des leitmotivs, hein, des discours weimariens. Donc venons-en donc maintenant à la critique de cette conception libérale du droit. Donc le problème vient de ce que produisent la liberté et l'égalité juridique formelle dans une société marquée par les inégalités socio-économiques, à savoir la domination de ceux qui détiennent le pouvoir économique et social sur ceux qui n'ont pas, ou pour citer Heller en 1926, donc un droit matériellement inégal. Heller le formule encore peut-être plus drastiquement et en termes plus politiques dans son texte de 1928, Politische Demokratie und soziale Homogenität. Je cite, en l'absence d'homogénéité sociale, l'égalité formelle la plus radicale se transforme en l'inégalité la plus radicale et la démocratie formelle en dictature de la classe dominante. Donc, il y a de nombreux passages de ce type. Donc là encore, cette mise au jour critique des intérêts finalement que sert la forme juridique, en l'occurrence ceux de la bourgeoisie, la classe dominante, n'est pas spécifique à Heller. Alors là, il y a beaucoup justement de points communs avec Rad Bruch, qui était plus âgé, hein, qui a beaucoup travaillé aussi là-dessus. Ils citent même tous les deux une phrase issue d'un roman d'Anatole France. L'idée que la majestueuse égalité des lois interdit aux riches comme aux pauvres, hein, de voler du pain et de mendier dans la rue. Voilà, et de dormir sous les ponts, effectivement. Alors, ce qui est peut-être plus spécifique, c'est la manière dont Heller analyse justement cette contradiction entre la forme juridique et enfin, l'égalité et puis la réalité sociale. Je vais passer assez vite parce que vous l'avez déjà esquissé tout à l'heure, mais tant mieux. C'est le diagnostic qu'il fait en fait d'un processus de dégénérescence de l'état de droit libéral. Donc en 1932, hein, dans un texte, il utilise le terme de « dégénération ». C'est un processus qui a conduit, un processus historique finalement, qui a conduit à un changement de fonction sociale de la liberté et de l'égalité juridique, transformant, là je le cite de nouveau Heller, ce qui était un bienfait en un fléau pour les plus faibles, économiquement et socialement. Donc, il situe le début de ce processus après 1848, Donc au départ, on avait bien en fait une idée matérielle qui avait une visée émancipatrice, puis ensuite la bourgeoisie qui était saturée, hein, on retrouve ça des atouriettes, une fois son objectif atteint, et aussi effrayée par les revendications du prolétariat, a abandonné peu à peu cet idéal. Le biogas est devenu un simple bourgeois, difficile de rendre ça en français. Donc l'état de droit s'est vu peu à peu vidé de sa substance, et il utilise le terme de Entseelung, finalement elle a perdu son âme, hein, l'état de droit, pour se réduire à la simple maxime de la légalité formelle, déconnectée de tout contenu finalement et de l'idée de justice. Et donc ça, il voit, donc, on l'a vu, vous l'avez dit, chez Labinthe et puis aussi chez Kelsen, avec tous les problèmes de, ce, de ces rapprochements, finalement l'aboutissement de ce processus. Et donc au vu de cette évolution et des insuffisances du droit libéral dans cette, une société de classe et inégalitaire, Heller formule un jugement qui semble sans appel, si on le lit comme ça de façon isolée, donc je cite, « L'état de droit libéral n'est plus à la hauteur de la tâche actuelle », c'est une citation d'un discours au départ fait en, devant des étudiants en 1930, hein, « Freiheit und Form in der Reichsverfassung ». Alors quelle est à ce moment-là l'alternative? Comment faut-il repenser ou transformer le droit? C'est une deuxième partie, et là je vais en venir à l'état de droit social. Donc il est tout d'abord intéressant de s'attarder un moment sur la terminologie chez Heller qui évolue un peu donc, au cours des années 20. Donc dans les Politische Ideenkreise, Heller parle plusieurs fois de « Sozialdemokratie », donc « démocratie sociale », qu'il rattache à donc, ce qu'il appelle l'idée « socialiste ». Et dans sa reconstruction de la genèse hein, de l'idée socialiste, qu'il fait remonter à Fichte, il oppose également donc, l'état de droit libéral à ce qu'il appelle le « social und Wirtschaftsstaat », donc « état social et économique ». Et l'opposition « social libéral Rechtsstaat », quant à elle, apparaît en 1929, donc c'est dans le texte « Rechtsstaat und Diktatur », puis ensuite donc en 1930, etc. Mais il y a bien une continuité. Ainsi, on cite souvent une formule de Rechtsstaat oder Diktatur comme définition de ce qu'il comprend par sozialer Rechtsstaat. Je la cite, c'est l'extension de l'idée de droit, d'état de droit matériel pardon, à l'ordre du travail et des biens. Or, dans le texte, c'est bien présenté comme la revendication de la démocratie sociale. Et dans tous les cas, le fil rouge, c'est bien la transformation de l'ordre juridique, hein, avec l'émergence aussi d'un nouveau type de droit. Alors, il ne s'étend pas beaucoup là-dessus, mais il évoque le terme de « Sozialrecht hein, », de droit social. Et en outre, ce sont des concepts qui se veulent aussi une analyse de transformation déjà en cours dans le cadre de la République de Weimar. Donc, à la base, comme on l'a vu, hein, de l'état de droit libéral, il y a une vision individualiste. En revanche, donc, la démocratie sociale repose sur une conception fondamentalement différente. Son point de départ, je cite donc de nouveau Hella, n'est pas le sujet de droit formellement égal aux autres, mais doit être, je continue à citer, l'homme en tant que totalité physique et psychologique, en tant qu'il est déterminé par ses possibilités sociales, en particulier économiques. Donc c'est 1926, toujours les Ideenkreise. Donc en d'autres termes, il s'agit de prendre en compte dans le droit la réalité socio-économique et donc les situations de dépendance sociale, d'inégalité, afin de permettre une organisation juste, gerecht, des rapports socio-économiques. Alors il utilise aussi, il parle de Wirklichkeitswendung, c'est-à-dire le fait de se tourner vers la réalité, ou d'un tournant réaliste, si on pouvait, pouvait le formuler ainsi. Et donc cette importance fondamentale aussi de l'image, en fait, ou l'idée de l'homme dans le droit, c'est quelque chose qu'on retrouve ensuite justement chez Rapport, aussi chez Hugo Sinsheimer, et cette nécessité voilà, de prendre en compte l'homme, non pas comme un atome isolé, mais le Vergesellschaftete, donc l'homme socialisé, hein, c'est au cœur de toutes les réflexions des juristes de gauche sur la transformation du droit. Alors quelles en sont les conséquences sur le plan des normes aussi juridiques? Donc Heller le résume de façon suivante, donc c'est toujours dans le chapitre consacré à l'idée socialiste en Die politischen Ideenkreise. Donc c'est une transformation d'un ordre juridique donc, fondé sur le droit privé, donc l'ordre du travail hein, et des biens, donc dans un ordre fondé sur le droit public. Öffentlich-rechtliche Umgestaltung der privatrechtlichen Arbeits- und Güterordnung. Les sphères du travail et de l'économie cessent de relever uniquement du droit privé, mais sont reconnues comme relevant de l'intérêt public. Et les droits ne sont plus considérés comme servant seulement un intérêt individuel, mais comme ayant une fonction sociale. C'est aussi quelque chose qui a été évoqué ce matin. Donc cela implique un renversement de perspective, comme l'explique Heller donc, dans son texte de 1924 sur les Grundrechte. Les libertés ne doivent plus être conçues comme des droits naturels préexistants, mais comme des droits culturels, Kulturrechte, issus de la communauté et garantis par l'État, ce qui peut légitimer, comme dans le cas de la propriété privée, donc qu'on les restreigne au nom de l'intérêt collectif, de l'intérêt social. Donc on voit bien ici qu'il s'agit bien d'une transformation si structurelle du droit, qui pour lui donc, est déjà en cours. Alors là encore, il n'invente rien. Il se situe dans la continuité de réflexions déjà engagées à la fin du XIXe siècle, donc notamment de nouveau chez Otto von Guericke, il y a ce texte « Die soziale Aufgabe des Privatrechts » de 1889, et ensuite par d'autres juristes, là clairement marqué à gauche, donc comme Karl Renner, déjà en 1904. Et donc l'inversion du rapport droit public, droit privé, c'est aussi voilà, quelque chose qu'on retrouve dans tous les discours sur le renouvellement aussi du droit, donc à l'époque weimarienne, et les sociodémocrates, eux, mettant l'accent sur la question des inégalités sociales et la question aussi de la propriété et du droit du travail. Les travaux donc, antérieurs à Weimar avaient déjà souligné que ces transformations étaient de fait déjà en cours. Par exemple, chez Karl Renner, on trouve l'idée que la signification et la fonction du droit peuvent évoluer même en l'absence de modification de la norme. Donc son idée, c'était que la propriété, par exemple, était certes toujours garantie dans le Bürgerliches Gesetzbuch, mais que dans les faits, elle était de plus en plus restreinte par tout un tas de nouvelles institutions, les assurances sociales, etc. Et Heller fait d'ailleurs allusion à ses analyses, il parle de Bedeutungswandel, donc transformation de la signification donc des institutions juridiques. Mais il voit surtout dans la constitution de Weimar, et notamment dans la partie vie économique de la constitution, donc qui fait partie des droits fondamentaux, c'est tout à la fin, la preuve que, je cite, « nous sommes bien au beau milieu de cette transformation », mittendrin, en 1924, il écrit ça. Donc en matière du droit du travail, Heller donc, évoque les conventions collectives, les Tarifvertrags, on a des questions ce matin, donc avec lequel pour lui le contrat de travail a quitté la sphère du droit privé. Il insiste sur la portée considérable de cette transformation qui a dans une large mesure remplacé, je cite toujours, le droit individualiste des obligations du BGB par un nouveau droit social, Sozialrecht, donc comme un nouveau domaine du droit. Et il cite bien sûr aussi le fameux article 165, qui prévoyait la mise en place d'une représentation des travailleurs et puis qui entérinait le principe paritaire dans les questions de salaire et de conditions de travail. Concernant la propriété, il souligne aussi à quel point, selon lui, la garantie de la propriété, qui est certes réaffirmée dans la Constitution, se trouve en même temps déjà restreinte par toute une série d'articles. Il utilise aussi, elle dit qu'elle est minée de l'intérieur ou sapée de l'intérieur. Donc il y a l'article notamment 156 sur les possibilités de socialisation, il y a l'article 151 avec sa formule « propriété oblige » ou l'article 153 qui dit que la vie économique doit correspondre au principe de justice avec pour finalité la garantie d'une existence digne pour tous, etc. Et donc selon lui, c'est la preuve que la propriété a perdu son caractère inviolable et sacré, et c'est aussi un diagnostic qui n'est pas le seul à faire. Donc tout cela indique, ce que j'ai pu dire jusqu'ici, que pour Heller, la transformation du système juridique et aussi, donc, à terme, transformation sociale, passe par l'intervention de l'État, c'est quelque chose qui a été souligné déjà, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres, il n'insiste pas sur tout ce qui relève de l'organisation autonome du droit par les forces, les groupes socio-économiques, quelque chose qu'ont beaucoup plus développé Sinsheimer ou ensuite Frenkel dans sa conception de la démocratie collective. Alors c'est pas si surprenant quand on sait l'ancrage disciplinaire de Heller et son intérêt pour l'État au départ, c'est de là qu'il part. Plus globalement, on va dire aussi que Heller n'analyse pas vraiment en détail le fonctionnement concret de ce nouveau droit, moins que d'autres. En revanche, il y a bien une cohérence du discours quand Franz Neumann, en 1930, reprend le concept de Sozialer Rechtsstaat. Il en voit bien les fondements dans ces mêmes articles de la Constitution, de la partie vie économique évoquée par Heller, dont il faut ensuite, selon lui, développer et théoriser le contenu social, ce que n'avait pas fait Heller, ou en tout cas n'avait pas été au bout de ce processus. Donc il envisage bien un autre type de droit qui prendrait en compte les rapports sociaux et l'intérêt collectif et qui implique justement un accroissement, on va dire, de l'intervention de l'État. Ce qu'il faut donc maintenant analyser, ce sera ma troisième partie, c'est la manière dont s'articule finalement ce qu'il appelle voilà, d'abord démocratie sociale, puis État de droit social avec l État de droit libéral. En fait, on n'est pas dans le cadre d'un simple rapport antagoniste ou antagonique, d'antagonisme, voilà. Et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de sa position. Donc, voilà, mon troisième point. Donc, pour comprendre en fait cette articulation, il faut tout d'abord revenir sur la valorisation du droit et de l'État, ou peut-être même l'appropriation, dont témoignent les textes de Hella et qui étaient loin de relever de l'évidence au sein de la social-démocratie. Avant Weimar, on ne trouve presque aucune référence positive au Reichstag chez les sociodémocrates. Même si, d'un autre côté, la thèse marxiste d'un dépérissement, enfin, d'ailleurs chez Engels, d'un dépérissement de l'État, le Absterben des Staates, une fois le socialisme réalisé, commençait à être contestée. C'est aussi les débats révisionnisme, on en a beaucoup parlé, Kautsky, etc., Bernstein. Hella, qui appartenait clairement à l'aile droite de la social-démocratie, donc n'hésite pas à remettre franchement en cause ses thèses. Donc, c'est notamment dans son ouvrage Socialismus und Nation et aussi dans son affrontement avec l'Autrichien Max Adler au congrès des jeunes socialistes en 1925. Donc pour lui, la disparition du Klassenstaat, de l'état de classe, ne signifie pas la disparition de l'État. Et il va même, ça a été aussi esquissé par Markus Lanke ce matin, par fustiger des tendances anarchistes, hein, un utopisme libéralo-anarchiste, hein, potentiellement dangereux, car si l'idée d'une société sans domination peut faire sens en tant que promesse prophétique, elle ne vaut rien en tant que finalité politique. Donc il y a cette phrase qui n'a pas encore été citée, je me disais peut-être ce sera le cas, le socialisme n'est pas l'abolition mais l'ennoblissement de l'État, enfin et de l'ONG, des Staates. Et Socialismus und Nation donc, contient aussi des considérations révélatrices de l'importance du droit pour Hella, comme quand il explique que la véritable essence du socialisme, ou son ultime justification, réside dans l'idée de justice sociale, et la volonté de créer une communauté juste, hein, Gerechtigkeit. Le problème étant de parvenir à passer d'une justice formelle, hein, cette égalité entre des personnes, voilà, entre des abstraites finalement, à une justice matérielle, économique, concrète. Donc, au vu de cette réévaluation finalement de l'État et du droit, il n'est pas surprenant que dans les réflexions consacrées spécifiquement à Weimar, donc à l'État concret weimarien, les nouvelles dispositions constitutionnelles apparaissent comme un moyen pour penser, en tout cas envisager la réalisation du socialisme par des voies, on va dire ici réformistes, une conception qui avait le mérite au moins d'être cohérente avec la pratique politique du SPD. Alors ça ne va pas certes sans ambivalence, qu'on retrouve aussi d'ailleurs chez d'autres collègues de Hella, donc lié évidemment à la tension entre ce qui avait déjà été acquis, la démocratie, et puis le fait qu'il restait encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre le socialisme. Donc par exemple, il distingue plusieurs fois l'idée sociale de l'idée socialiste. Hein, en 1924, il dit que l'intervention de l'État dans l'économie libérale pour en limiter finalement les effets négatifs, ça relève de l'idée sociale, alors que le socialisme, c'est vraiment la collectivisation complète finalement au niveau économique. Et donc la constitution de Weimar, ça relève de l'idée sociale plutôt. Mais dans le même, en 1926 aussi, il écrit que le nouveau droit du travail est encore loin de signifier le dépassement à Überwindung du capitalisme. Mais dans le même texte, il rattache bien ce qu'il appelle la démocratie sociale à l'idée socialiste. Et même dès 1924, il affirme que même si on reste dans le cadre d'un ordre capitaliste, la Constitution offre bien ce qu'il appelle les leviers juridiques pour transformer l'ordre social. Et en 1926, il se montre encore très optimiste hein, sur les potentialités offertes par la Constitution. Les tendances de l'idée socialiste, y affirme-t-il, sont déjà dans une certaine mesure devenues réalité et la voie est ouverte vers un, je cite, « renversement anticapitaliste » dans le cadre de la Constitution. Donc cette logique suggère déjà que la démocratie sociale ne s'élabore pas ou pas uniquement contre pas radicalement contre, l'état du droit libéral. Au contraire, les deux apparaissent inextricablement liés. Cite ici Christophe Müller, qui a beaucoup écrit sur Gustave Rabour, non, Hermann Müller. Le trait d'union entre les deux, c'est en fait la démocratie. Et dans les Politische Ideenkreise, c'est intéressant parce que Heller distingue, il fait deux chapitres distincts, l'idée démocratique et l'idée libérale. Donc il fait une distinction que faisaient la plupart de ses contemporains. Mais il la relativise très vite en affirmant qu'elles ont les mêmes racines sur le plan de l'histoire des idées, Ideengeschichtliche Wurzeln. Le but du libéralisme n'a jamais été, écrit-il dans ce texte, la simple conformité à la loi, simple légalité, mais toujours la légalité décidée et contrôlée démocratiquement. Et Heller affirme donc dès l'introduction de cet écrit, et le réitère plus tard, que le libéralisme et le socialisme sont deux moments de l'évolution de la démocratie, ayant chacun une fonction sociale différente. Donc le libéralisme a correspondu à l'émancipation de la bourgeoisie, avant que le prolétariat ne fasse sienne finalement la revendication de la démocratie, mais sous la forme de la démocratie sociale, au service de sa propre émancipation. Et c'est à ce moment-là aussi que finalement la bourgeoisie commence à se détourner, ou en tout cas à vider de sa substance l'état de droit pour elle. Il y a donc une continuité qui n'est, et ça me paraît intéressant ici, pas uniquement historique, voilà, il y a une succession, mais aussi logique. Alors il utilise par exemple, je trouve, un terme deux fois, le terme folgerichtig, qui en allemand veut dire justement logique ou conséquent. Donc en 1924, il dit par exemple, l'idée sociale est la continuation logique de la démocratie politique vers la démocratie économique. Ou en 1926, la revendication d'égalité de la classe ouvrière se situe dans l'évolution logique de la démocratie. Et il y a aussi d'autres formules qui vont dans le sens d'une cohérence. Il y a par exemple le terme d'extension de l'état de droit, hein, Ausdehnung. Et en 1932, il parle aussi il utilise le terme de Umbauen. Donc Umbauen, l'état de droit. Donc Umbauen, ça veut dire transformer au départ un bâtiment. Hein, Umbauen, c'est construire. Donc c'est des termes qui suggèrent que s'il y a bien transformation, on ne détruit pas en quelque sorte les fondations si on reste dans la métaphore du bâtiment. En fait, on pourrait dire qu'il s'agit peut-être davantage d'aller jusqu'au bout de la logique initiale de l'état de droit libéral en redonnant leur sens à des principes qui ont été vidés de leur substance, mais sans abandonner les fondements que sont les droits, notamment les droits de l'individu et la sécurité juridique. Et Heller le formule ça dès 1926, c'est intéressant parce que c'est avant que la République ne soit en crise. Il dit que les idées libérales ont certes perdu de leur actualité, mais qu'elles ont produit, je cite, « un grand nombre d'institutions étatico-juridiques et sociales qui sont sans le moindre doute ancrées si solidement dans notre culture commune qu'elles ne pourront que disparaître avec elles. Et même une communauté socialiste devra construire sur ses fondements et reconnaître les droits de l'individu. » C'est aussi à remettre en perspective par rapport à ce qu'il écrit justement dans Socialismus und Nation, où il dit que l'État restera forcément toujours nécessaire dans la mesure où l'existence ne se réduit pas à l'économie. Et ce n'est pas parce que l'exploitation capitaliste sera supprimée que l'existence ne pourra plus être entravée par d'autres facteurs, et que donc le besoin de sécurité juridique reste essentiel. Donc, le discours de Heller est à cet égard parfois moins ambigu que d'autres qui, parfois quand ils insistent sur la fonction des droits sociaux, la fonction sociale des droits, pardon, et le primat du droit public, entretiennent parfois un certain flou sur ce qu'il advient finalement des Grundrechte ou des droits individuels dans le cadre, si on va jusqu'au bout de la logique, en tout cas, du droit social. Alors, en 1932, Heller réitère qu'il faut, donc il y a cette fameuse citation, pardon, où il dit il faut transformer l'état, donc Umbauen, l'état de droit libéral en un état de droit, alors là qu'il appelle socialiste en 1932. Mais il le précise bien, il ne faut pas se débarrasser de l'état de droit en tant que tel, überhaupt. Donc là, il est évident qu'au vu du contexte, l'enjeu, il n'est pas juste théorique, hein, il est clairement politique. Et même, on peut voir aussi, je pense, dans le texte de 28, donc Politische Demokratie und soziale Homogenität, où là, il s'oppose, c'est d'abord une réponse au thèse de Schmitt, mais il s'inscrit dans une stratégie de défense de la République parlementaire où il explique, donc, ça a déjà été dit, hein, trop de disparités socio-économiques menacent la démocratie qui, pour fonctionner, a besoin d'un minimum d'homogénéité, alors homogénéité relative, mais a besoin de cette minimum de ce besoin de ce minimum d'homogénéité socio-économique, pardon. Et donc, pour surmonter, pour résoudre cette crise de la démocratie politique, une voie, c'est justement d'aller vers une démocratie sociale ou vers ce qui devient ensuite l'état de droit social. Et c'est justement révélateur que l'apparition du concept même d'état de droit social, comme 1929, Sozialer Rechtsstaat, qui explicite davantage la parenté, c'est-à-dire la continuité, donc coïncide avec le début de la crise politique et institutionnelle de la République, quand il apparaît que la bourgeoisie est disposée, alors, pour reprendre un terme de Heller, à se suicider, en abandonnant son état de droit, en quelque sorte, pour le fascisme. Donc, comme je l'ai déjà suggéré en introduction, le Sozialer Rechtsstaat, qui donc est dans le texte de 1929, Rechtsstaat oder Diktatur, c'est l'alternative qui est présentée à la fin, c'est un texte très connu, c'est fascisme ou dictature fasciste ou état de droit social. Donc c'est à la fois un contre-concept théorique contre d'autres juristes, mais c'est aussi un concept de combat, un Kampfbegriff, pour essayer d'appeler les élites bourgeoises à défendre leur propre, finalement, héritage. Alors là, on est davantage aussi dans l'invocation du Reichstag. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez caractéristique du discours des juristes sociodémocrates dans ces dernières phases de Weimar, ou à une phase optimiste quant aux potentialités ouvertes par la Constitution. Un succès, donc une stratégie de repli un peu défensif sur l'état de droit. Alors ça sera un peu différent chez Kircher-Heimer, justement, mais qui est une génération qui a commencé, en fait, alors que c'était déjà la crise, pratiquement, ces premiers textes. Et dans ce contexte, on voit que l'état de droit va gagner en importance, par exemple, en apparaissant comme une position de repli. C'est très net chez Frenkel, mais aussi, j'ai une petite citation, si j'ai juste le temps, en mai 1932 de Frenkel, si les républicains allemands s'efforcent de construire un barrage pour endiguer la vague de barbarie, c'est un peu de pathos, qui arrive sur nous, ils le font surtout pour conserver les conquêtes que nous devons à l'ère libérale. On retrouve la même chose aussi chez Rapport. Et chez, finalement, Heller, c'est moins un repli, il y a plus une cohérence, une continuité dans le discours. Il note par contre le paradoxe qu'il y a à ce que l'état de droit, finalement, qui a toujours été la forme de vie étatique de la bourgeoisie, ne soit plus défendu que par la social-démocratie et la classe ouvrière, dans son texte Bürger und Bourgeois de 1932. Donc, au terme de cette lecture partielle, bien sûr, et un peu aussi décentrée de Heller, parce que je ne suis pas focalisée sur la théorie de l'État ou le droit, ou la Staatsrechtslehre, il me semble important de souligner que la critique du droit libéral, de l'État droit libéral, ne signifie pas pour autant le rejet du droit comme vecteur de transformation sociale, et encore moins l'abandon de l'idée d'État de droit. Donc il y a une sorte d'enracinement dans un socle libéral et démocratique. Et donc là, je vais reprendre une analyse de Markus Lanke que j'ai lue dans un article de 2010 que j'ai trouvé vraiment très... qui résume très bien la chose, disant que Heller ne voulait pas dépasser l'état de droit, mais l'élever à un niveau supérieur, en conservant finalement les aspects essentiels, dans une sorte finalement d'Aufhebung, très, très hegelienne, c'est-à-dire qu'on critique, on nie, mais on conserve quand même certains éléments. Alors le colloque invité aussi à s'interroger sur l'actualité de Heller, c'est quelque chose qui est toujours très délicat, surtout pour une pensée qui est aussi ancrée dans un contexte aussi spécifique que celui de Weimar. Et d'ailleurs, comme beaucoup de commentateurs ont noté que dans la Staatslehre de 1934, donc après un effondrement de la République, même s'il n'est pas achevé, Heller ne parle plus de Sozialer Rechtsstaat, le concept disparaît. Alors bien sûr, c'est un texte qui n'a pas le même statut, un texte beaucoup plus théorique, mais c'est vrai, de fait, c'est après avoir constaté lui-même l'échec de la stratégie envisagée. Chez Franz Neumann, également, on en parlera peut-être demain, les textes témoignent d'un désenchantement hein, par rapport à l'état de droit, alors là, de façon très très nette. L'idée qu'il y avait un conflit finalement entre démocratie et état de droit, etc. Mais je ne connais pas assez bien Neumann pour m'étendre plus là-dessus. Donc, on a pu aussi souligner finalement une certaine naïveté chez Heller dans l'évaluation des rapports de force hein, réels dans la société weimarienne et des potentialités réelles, même si, par exemple, dans sa critique de l'examen, de la revendication de l'examen de constitutionnalité, il pointe bien le problème, en fait, et les risques qu'il y a à voir cette transformation bloquée par les juges se repliant sur se référant à l'article 109, etc. Si on pouvait retenir certaines choses qui me paraissent intéressantes dans le cadre aussi d'une approche critique du droit, ce serait donc l'attention finalement, la sensibilisation pour la fonction sociale et politique hein, du droit, la nécessité aussi de le considérer comme construction historique dont il faut analyser les présupposés économiques et culturels, et puis ce qui finalement à la fois préserve d'un risque de toute absolutisation des normes juridiques qui peuvent perdre leur sens et ne finalement plus du tout avoir le même rôle, la fonction qu'elles avaient au départ, mais souligne aussi en même temps le potentiel aussi finalement du droit dans une perspective d'émancipation également des individus.